Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Élection 2023 en RDC, c'est demain le 31 décembre que seront publiés les résultats provisoires de la présidentielle. Confirmation du président de la CENI, Denis Kadima affirme d'emblée que le processus électoral est transparent et que les résultats de la CENI sont ceux exprimés dans les urnes par le peuple. Ituri, 14 personnes tuées dans des affrontements dans les villages de Kawame, territoire de Mambasa. Ils opposent depuis mercredi les FARDC aux EDF. La société civile locale plaide pour l'intensification des opérations militaires dans la région. Et puis, l'invitée Marie-Claire Mutanda, candidate députée, elle revient sur les réalités du Congo profond après avoir été à Mweka ou Kasai. Pas de route, pas de réseau de communication. La population enclavée a besoin d'une attention particulière des autorités, dit-elle. À tous et à toutes, bonjour. Le président de la CENI confirme la publication des résultats provisoires de la présidentielle pour demain, dimanche 31 décembre 2023. Dans une interview accordée à la presse hier au centre Bossolo à Kinshasa, Denis Kadima affirme que le processus électoral est transparent et que les résultats de la CENI sont ceux exprimés dans les urnes par le peuple. Denis Kadima l'a dit au micro de Grâce Hamzati.
Qu'est-ce qui est important quand on publie les résultats? C'est que les résultats reflètent la volonté de l'électorat. Et comment vous savez que ça reflète la volonté de l'électorat? Il y a plusieurs niveaux. La première étape, c'est que vous devez voir si ceux qui s'opposent à ces résultats-là, est-ce qu'ils ont des PV qui montrent que ce que la CENI a projeté est faux. C'est le point de départ. Ça, ils n'ont pas prouvé cela, mais ils demandent l'annulation. Quand quelqu'un demande l'annulation, sans même chercher à vérifier, à comparer ces chiffres à ceux de la CENI, vous devez déjà comprendre que cette personne-là a perdu. Parce que moi, si j'ai gagné, je vais vous montrer mes preuves. Personne n'a brandi des preuves. Alors, deuxième chose, nous allons publier les résultats par bureau de vote. C'est une occasion pour ces personnes-là de venir voir si la CENI a manipulé les résultats. Cette CENI vous donne toute la transparence. C'est pour ça que nous avons établi ce centre Bossolo. C'est pour que les gens puissent voir de leurs propres yeux. Si vous suivez les déclarations des missions d'observation, toutes les missions, alors toutes, internationales comme nationales, tout le monde converge dans la même direction pour reconnaître qu'en effet, le processus est crédible. Les irrégularités, c'est dans l'œuvre humaine. Quand nous avons des problèmes d'ordre opérationnel, c'est des difficultés. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'avoir les difficultés. Ce qui compte, c'est ce que vous faites face aux difficultés.
Et en rapport avec la publication des résultats partiels de la présidentielle 2023, à ce jour, sur 15 923 911 suffrages valablement exprimés après une mise à jour des résultats dans plusieurs circonscriptions présentées par la commission électorale hier au centre Bossolo, le candidat Félix Tshisekedi garde la première place avec 11 606 844, soit 72,89%. Il est suivi de Moïse Katumbi avec 18,27%. Martin Fayoulou vient en troisième position avant Adolphe Mouzito et Radjabo Tebabo Soborabo. Parlant du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sachez qu'il a condamné des actes d'intolérance, de traitements dégradants, des violences d'une gravité inacceptable envers les femmes. Il a dit lors de son adresse au 120e Conseil des ministres qui s'est tenu hier à la Cité de l'Union africaine, ici à Kinshasa. Il faisait ainsi allusion à la triste séquence vidéo montrant l'odieuse brutalisation d'une femme pendant le scrutin du 20 décembre dernier. D'après le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, le chef de l'État compte sur les autorités compétentes pour faire la lumière sur cette situation. On écoute Patrick Muyaya dans cet extrait proposé par Jacques-Yves Molima.
Saluons la belle fête démocratique observée durant la campagne électorale. Le président de la République a souligné le fait que ce moment a une fois de plus permis de démontrer à la face du monde la maturité du peuple congolais. Toutefois, a-t-il déploré l'observance, bien que de manière isolée, d'actes et des comportements répréhensibles traduits à certains endroits par l'expression d'une intolérance et la commission des violences d'une gravité inacceptable. Le président de la République est revenu sur la triste séquence vidéo montrant l'odieuse brutalisation d'une femme par un groupe de personnes majoritairement composées de jeunes hommes pour avoir exercé son droit le plus légitime, celui de voter pour le ou les candidats de son choix. Plus qu'une indignation, Le chef de l'État compte sur les autorités compétentes pour faire la lumière sur ces malheureux événements. Aussi, ne pouvant rester insensible face à une telle barbarie, ces faits l'ont poussé à réitérer une fois de plus que les manquements à la dignité humaine, les traitements dégradants envers l'être humain en général, et les femmes en particulier, n'ont aucun droit de cité dans notre société.
Dans l'actualité, notez aussi que, sur demande de la Fédération des entreprises du Congo FEC, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé accorde un moratoire sur tous les contrôles fiscaux des recettes non fiscales et des contrôles économiques de routine aux opérateurs économiques. Cette suspension va du 20 décembre 2023 au 31 janvier 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Elle a été rendue publique à travers un communiqué parvenu à Radio Capi hier. Pour justifier cette décision, le Premier ministre dit ne pas s'étaler sur toutes les raisons avancées par la FEC, notamment les tracasseries de tous ordres en cette période de fin d'année. Ainsi, la suspension de ces missions diligentées par les régies financières va permettre aux opérateurs économiques de préparer leurs états financiers dans la sérénité. Rendons-nous en Ituri, je vous le disais en titre. 14 personnes, dont 4 rebelles ADF, ont été tuées lors des affrontements qui opposent depuis mercredi les FARDC aux EDF dans les villages de Kawame, dans le territoire de Mambasa. Selon des sources locales, des femmes et des enfants qui étaient pris en otage sont parmi les victimes. La société civile locale plaide pour l'intensification des opérations militaires dans la région. Le point avec Ezekiel Mousalia.
La situation sécuritaire reste précaire dans la partie sud-est du territoire de Mambasa, en dépit des patrouilles effectuées par des militaires pour traquer les rebelles des ADF dans ces territoires situés à 175 km de la ville de Bunia. Deux villages, Mambau et Kawame, sont depuis mercredi la cible d'attaque de ces groupes venus de Mabau au nord Kivu. Selon des sources locales, ces miliciens ont tiré plusieurs coups de feu dans ces localités, ce qui a poussé de nombreux habitants à fuir. Dans la foulée, 10 personnes ont été tuées, dont une femme et 4 hommes, et parmi eux, un motard qui se rendait dans son champ, indique la société civile locale. 4 autres corps des civils décapités à la machette ont été retrouvés vendredi pendant la fouille et les corps ramenés par des jeunes volontaires à Biakato Centre après l'intervention de l'armée. Contacté, l'administrateur du territoire de Mambasa indique que les FARDC ont neutralisé 4 ADF et récupéré leurs armes. Jean-Baptiste Mnyampandi ajoute que l'armée pourchasse l'ennemi qui se serait dirigé vers Mongali dans le groupement Bangolé. Il appelle cet administré au calme mais aussi à faire confiance aux forces loyalistes qui poursuivent la traque de ces rebelles. Bunia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Direction Matadi, au Congo central, plus d'une quinzaine de familles du village d'Ibongo, situé vers le site touristique Alain Tendai, sur la rive droite du fleuve Congo, passent la nuit à la belle étoile. Leurs maisons ont été endommagées par la montée des eaux du fleuve Congo depuis quelques jours. Le maire de la ville de Matadi, qui a été hier au chevet des sinistrés, lance un SOS aux personnes de bonne volonté pour l'assistance financière, matérielle et même psychologique de ses compatriotes. Nana Plurich Mambou, reporter.
Cette montée spectaculaire des eaux du fleuve Congo qui s'observe ces derniers temps a frappé de plein fouet le village d'Ibongo, riverain du fleuve Congo dans sa partie droite. Certaines habitations construites sur les lieux du fleuve sont totalement détruites, d'autres à proximité du fleuve sont inondées. Les membres de plus de 15 ménages dorment à la belle étoile depuis plusieurs jours à la merci des moustiques et des intempéries. D'où ces SOS du maire de Matadi, Dominique Inko Diambete, qui leur a rendu visite.
Avec la montée des eaux, il y a eu des inondations. Beaucoup de maisons sont parties. C'est triste, nous avons perdu une quinzaine de maisons qui se sont effondrées. La population ici souffre, ils sont des sinistrés, qui vivent ici maintenant dans des conditions très, 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 très précaires. Avec nos petits moyens de la mairie, je ne pense pas que nous serons en mesure de résoudre tous ces problèmes immédiatement. En même temps, nous demandons aussi à des hommes de bonne volonté de venir secourir la population de ces coins.
C'était aussi une occasion pour l'autorité urbaine de Matadi de demander à ses familles en détresse de s'abstenir prochainement de construire sur les lits d'un fleuve. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, l'Association nationale des victimes du Congo, ANVC, a encouragé hier le gouvernement congolais à assister plus de 80 victimes des dernières pluies diluviennes à travers le pays. Le président de cette organisation citoyenne, Mirand Mulumba, l'a dit dans un entretien accordé à Radio Kapi. Il a également estimé que l'assistance de l'État va aider ces familles éplorées à reprendre leur vie normale et à bien entamer la nouvelle année. Mirand Mulumba est au micro de Blaise Ndongala.
Qu'il me soit permis de présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées issues de catastrophes naturelles qui ont causé d'énormes dégâts sur toute l'étendue de la République. C'est ici l'occasion pour moi de pouvoir interpeller pour voir comment toutes ces familles éplorées soient consolées. Que ce soit à Bukavu, à Mwenga, au Kasai central, pourquoi pas au Congo central, plusieurs corps sont internés à ce jour dans des différentes morgues. Et je trouve qu'il est utile que le ministère des Affaires sociales et Solidarité puisse mettre au travail pour voir dans quelle mesure toutes les familles éplorées puissent bénéficier d'une assistance, tout en demandant aussi au ministère de l'urbanisation de pouvoir revoir, n'est-ce pas, la politique de l'urbanisation sur toute l'étendue de la République. Parce que beaucoup d'inondations, beaucoup de catastrophes que nous comptons aujourd'hui, c'est la résultante de l'octroi arbitraire de différents titres.
La ville d'Inongo, chef-lieu de Maïndombe, devra être déclarée électrifiée avant fin 2023, qui touche déjà à sa fin. Une forte délégation composée des ingénieurs de la Société nationale d'électricité SNEL, partie de Bandundu et de Kinshasa, y séjourne depuis 3 jours pour exécuter les travaux d'électrification de Inongo. Cette équipe, partie avec des équipements dont un groupe électrogène de 500 kVA, travaille d'arrache-pied pour la mise en service de ce générateur afin de desservir la ville en énergie électrique. Cela afin de matérialiser la promesse du chef de l'État faite lors de son passage à Inongo dans le cadre de sa campagne électorale d'électrifier Inongo avant fin 2023. Prosper Bakuku, directeur provincial de la SNEL au Grand Bandundu et chef de la délégation, explique au micro de Irène Boma.
Nous venons directement de Kinshasa, sur l'ordre de notre directeur général qui nous a délégué en urgence pour exécuter la promesse qu'a donnée le chef de l'État lors de son passage dans la ville d'Inongo. Il avait promis à la population que le chef de l'État va doter d'un grand groupe électrogène. Le directeur général nous a envoyé avec un groupe et la population d'Inongo sera dans la joie. Comme vous le savez, la ville d'Inongo fonctionne avec un groupe de 220 kVA, mais cette fois-ci, on ajoute un groupe de 500, donc nous allons passer de 220 à 720 kVA. Donc ça va étendre encore la desserte dans la ville d'Inongo. C'est un premier pas. Il y aura encore d'autres projets qui viendront. Je crois que vous avez constaté que nous avions déjà commencé les travaux préparatoires. Donc nous faisons l'entretien de toute la centrale. On prépare là où sera posé le groupe en question et nous réhabilitons aussi les réseaux. Le seul message que je peux dire est que nous sommes venus pour les travaux de la mise en service du nouveau groupe et je crois que d'ici la fin de l'année, il y a encore de l'espoir que ce groupe soit opérationnel.
Autre nouvelle, 40 petits singes sortis frauduleusement de la RDC et interceptés au Togo ont été ramenés à Kinshasa puis à Lubumbashi, dans la capitale du cuivre. Ils sont pris en charge par l'association Jeunes Animaux confisqués au Katanga. Pour le responsable de cette association, il est inadmissible que certaines personnes profitent de la riche biodiversité de la RDC pour massacrer les animaux dans l'unique but de se remplir les poches. Jean-Parjean Gandou, Franck Chantero revient ici sur les circonstances du rapatriement de ces animaux.
Ils décollent à partir de l'aéroport d'Ndjili en destination de la Thaïlande à Bangkok. Ils font escale au Togo. Les autorités sont intriguées par la cargaison avec 3 caisses contenant 40 petits singes. Les autorités, conjointement avec une association de protection des animaux, Eagle Network, sont intriguées. Ils regardent le permis d'exportation émanant de la CITES RDC et ils constatent que le nombre d'animaux ne correspond pas au permis et surtout que les espèces qui étaient citées, il y en avait 4. On s'aperçoit que 12 espèces sont présentes dans les 3 boîtes. Les autorités décident de confisquer les animaux parce que le permis d'exportation CITES n'est pas conforme, rapatrient les animaux à Kinshasa. Ensuite, l'ICCN prend la décision de rapatrier les survivants au sanctuaire de Jack. On vient de faire une radio aujourd'hui d'un petit bébé qui a quelques mois. Il a un impact de balle dans la tête. C'est malheureux de voir que certains individus profitent profite de tout ça pour continuer à massacrer des familles entières, pour simplement se remplir les poches.
Actualité internationale. La mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, a remis officiellement aux autorités nationales un de ses derniers camps dans une grande ville du nord du pays, Tombouctou, avant la fin de son retrait définitif, a indiqué la télévision publique. Les sites de Gao et Tombouctou de la MINUSMA étaient les derniers camps à ne pas avoir été rétrocédés car il y était prévu après le 1er janvier ce que l'ONU appelle la liquidation de la mission, c'est-à-dire remettre par exemple aux autorités les derniers équipements devant l'être ou mettre fin au contrat existant. Mais la situation sécuritaire dans cette région en proie aux attaques djihadistes a précipité le départ définitif de la MINUSMA à Tombouctou.
L'invité.
Il s'agit de Marie-Claire Mutanda, candidate aux législatives. Elle revient sur les réalités du Congo profond après avoir été à Mweka au Kasaï. Pas de route, pas de réseau de communication. La population enclavée a besoin d'une attention particulière des autorités, a-t-elle dit. Elle s'entretient avec François Kadima.
Marie-Claire Mutanda, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur François.
Candidate aux législatives dans le Congo profond, donc à Mweka, quelles ont été les réalités sur terrain?
Les réalités du Congo profond, elles ont été vraiment les vraies réalités de la vie de nos frères et sœurs. Les réalités du Congo profond, je te dis, pendant tout ce mois que j'ai passé là-bas, la découverte à Mweka, par exemple, dans tous les territoires de Mweka, qui est aussi plus grand que la province du Kasaï oriental, par exemple. Sur toute cette étendue, il n'y a pas de réseau de connectivité, de téléphone, quand on est en dehors de Mweka, de Kakenye et de Luebo, ce n'est même pas déjà notre territoire. Mais dès que tu dépasses la frontière de Luebo, tu vas avoir la connexion sur cet axe-là qui est à Mwekaville. Et quand tu quittes Mweka, si tu continues dans l'axe dans la profondeur, tu n'as de connectivité qu'à Abulapé. Et si tu dévies un peu, tu as la connexion à Kalumbayi et encore peut-être tu as la connexion plus tard vers Kakenge si tu prends l'autre axe et à Domion. Mais, et parce que je ne suis pas allé jusqu'à Lodi, mais sur les grands axes, au moins 7 qu'il y a, dès que tu dépasses la grande ville, il n'y a pas de connexion. Et ça m'a donné vraiment froid au cœur. Pourquoi on doit rester? On ne peut pas faire un plaidoyer auprès de commerçants de mobiles qui pour eux n'ont besoin que d'apporter le marché là où il y a les humains. Pourquoi on ne peut pas faire ça pour pouvoir élier notre peuple? Ça m'a vraiment beaucoup agacé. Mais les réalités profondes aussi, les routes qui n'existent pas, c'est 3 jours pour couvrir une période de 50-60 mètres parce qu'on va dans un sens, ça ne bouge pas, on doit revenir pour reprendre un autre sens, ça ne bouge pas et une journée est passée. Ensuite, on prend l'autre et on s'embourbe. Et on doit passer 6 heures avant de sortir de la boue. C'est des réalités, mais c'est ça aussi.
Alors, quelles sont les leçons tirées?
Les leçons tirées, pour moi, novice en politique, mais aussi première fois aux élections, je m'étais décidée d'aller avec mes moyens de bord. La leçon que j'ai apprise est que le peuple comprend qu'il y a des tricheurs. Et ils étaient là, ils se sont fait prendre comme des petits voleurs qui sont, parce que comme le président Kadima l'a dit, les machines avaient des GPS et là on a vu combien ils ont essayé de tricher, combien ils ont essayé de bourrer des urnes. Et là j'attends seulement de voir que les résultats vont montrer combien voleurs ils ont été. Et ça, c'était vraiment des expériences à vivre avec la base qui comprend bien ces choses. Et ça, c'est vraiment des leçons que je tire, de dire que il faudra bien qu'on continue pendant ces 5 ans d'éduquer notre base, qu'ils ne laisseront pas des tricheurs venir les voler le pouvoir qui les appartient pour n'en faire rien. En plus, ils n'en font pas grand chose que peut-être pour eux-mêmes, parce qu'on ne voit pas beaucoup de déterminants changer dans nos contrées, à moins qu'en particulier, par contre, les choses se sont détériorées, hein, c'est déplorable, se sont détériorées des années en arrière, c'est inacceptable.
Qu'est-ce qui sort de votre expérience?
Oui, de mon expérience, je suis très, très, très satisfaite, absolument satisfaite. Quoi qu'il en soit, moi, je suis partie parce que je suis engagée avec la base. J'ai été dans mon fief, dans mon village le plus souvent, autour de ma famille, autour de gens qui me connaissent, mais pas directement avec toute la base électorale partout. Elle est dans tous les axes, hein. Aussi bien chez ma tribu sociale, mais aussi bien que dans d'autres tribus qui m'ont très bien accueillie. J'étais dans des endroits coupée de tout le monde, où j'étais comme si j'étais à la fin du monde, à Pontchim, où pour parler, tu dois aller à des kilomètres pour être au bout d'un petit fil pendu comme ça, toiture, l'endroit exact où les réseaux passent. Pour le petit téléphone, j'ai aimé la traversée des Louboudji. J'ai aimé d'être dans ce coin où tu peux apprécier vraiment, vraiment des expériences que je n'oublierai pas.
Merci beaucoup, Marie-Claire Mutanda.
Cher François, merci.
Notre invitée est candidate aux législatives. Elle s'entretenait avec François Kadima. C'est la fin de ce journal coordonné et supervisé par Nuela Luzi Tukabambi et Jacques-Yves Molima. Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.